Bienvenue, chers amis, à l'écoute, pour y retrouver Saint François. Et maintenant, deux à deux, en route pour la France. François marchait aux côtés de Frère Pacifique, roi des troubadours. « Remercions le Seigneur, » suggéra François. « Oui, héros, » répondit Pacifique. Il n'appelait jamais François autrement. Les deux anciens troubadours s'en allaient ensemble au pays des rêves de leur jeunesse, vers la patrie des trouvères et de la poésie. Et bien que silencieux et priants, ils avaient le cœur débordant de joie. Ils ressentaient une telle hâte d'arriver qu'ils avaient devancé leurs compagnons d'une bonne distance. Ils entrèrent à Florence. François apprit que le cardinal Ugolin y résidait pour prêcher la nouvelle croisade. « Si je lui demandais de nous aider, » pensa-t-il. Car à Rome, il avait appris que plusieurs cardinaux travaillaient contre les frères, surtout depuis l'obtention de la grande indulgence. Et supposez qu'il parvienne à convaincre le pape et que celui-ci vous dise un beau jour « Fini cette pauvreté. Il ne faut s'étonner de rien. » Il se hâte vers le cardinal. « Éminence, je viens vous demander assistance. » Ils étaient assis l'un en face de l'autre, François comme un bloc de terre, le cardinal aux cheveux blancs, vêtu de soie rose radie et de dentelle blanche et parfumé de baumes précieux. Il caressait son menton maigre et tenait fermés ses yeux bleu pâle. Quand il parlait, ses yeux semblaient vous traverser de part en part. Les lèvres même remuaient à peine. « Je vous aiderai et vous protégerai, moi et mes amis. Votre ordre est digne d'éloge. Si c'était à recommencer, moi aussi je porterai la bure. Dieu soit loué, nous pouvons continuer le cœur tranquille. » Et François lui raconta plein de joie qu'il avait envoyé ses frères en pays étranger et que lui-même partait pour la France. Le cardinal rouvrit ses yeux pâles et dit avec énergie, « Vous resterez chez nous, frère François. Jamais, éminence !» Et François sursauta comme piqué par une guêpe. « Dans ce cas, nous ne pouvons pas vous aider. » François se tordit les mains, se promena de long en large. « Nous ne pouvons pas vous aider si vous êtes si loin de nous. Vous resterez. » François, comme sous une brûlure, cria « Je suis honteux, éminence. Envoyez mes frères au loin et restez moi-même ici. Impossible, absolument impossible. Pourquoi avez-vous envoyé vos frères de sorte qu'ils doivent périr de misère et de faim ?» Mais la foi du pauvre élève se cabra. « Croyez-vous, monseigneur, que Dieu veut les frères mineurs pour ce pays seul ? En vérité, je vous dis que Dieu les a appelés pour le salut de tous les peuples, même des païens, des maures. En tout cas, vous-même ne partirez pas, répéta le cardinal, avec calme et décision, tout en admirant dans le petit frère ce feu indomptable. Une colonne ardente de l'Église, songea-t-il. François était sur le point de reprendre ses objections, mais il voyait le cardinal comme le cardinal le voyait, jusque dans l'âme. Ainsi se tenait-il comme en garde. Quelque chose de divin enveloppa François. Un sentiment d'humble soumission l'envahit. Dans la décision du cardinal, il voyait un signe du ciel. Et ce puissant et attrayant projet d'aller en France, il le brisa comme un violon harmonieux. Il se mit à genoux, les mains croisées sur la poitrine et un sanglot dans l'âme. Le lendemain, longeant les blés et les vignes, il est rentré chez lui, un peu courbé, sous le poids qui pesait à son cœur. Voyant ramper sur le chemin une vilaine chenille, il la prit et la déposa dans l'herbe. « Ma petite sœur, tu dois devenir un beau papillon. » Ainsi, laissant un corps laid et souillé, notre âme, un jour, s'envolera vers Dieu. Et il entendait les alouettes, qui, des champs de blé et des coteaux plantés de vignobles, montés dans l'air pur du matin. Écoutez leurs tire-lits perlés sur le paysage. les alouettes, ses amis et modèles. Et bientôt lui aussi se mit à chanter, avec une douce ferveur, la tête renversée, souriante, vers le ciel. Une nuit de novembre, que la neige était tombée en abondance, montée de sa cellule des gémissements et de rauques paroles. Mon Dieu et mon tout. Chassez ces vilaines pensées. Chassez-les, je suis trop faible. Et les soupirs reprenaient, alternant avec des halètements, des prières, des plaintes, soulignées par le claquement des cordes cinglant la chair nue. Brusquement un cri. « Frère Anne, tu me paieras ça !» La porte s'ouvrit en coup de vent et François bondit dehors tout nu dans la neige. Près de sa hutte, devant le bosquet d'épines aux dards aigus, il ouvrit ses bras comme un Christ en croix et vlan, il s'y précipita. Un craquement et le voilà suspendu, prisonnier dans les branches brûlantes comme une mouche dans une toile d'araignée. Les dards déchiraient sa peau. Les branches cédaient sous le poids du corps et les épines entraient dans sa chair. Dieu merci, cela fait mal. Les vilaines visions disparaissent, gémit-il. La douleur taillée, brûlée, il gémissait malgré lui. Dieu, quelle torture! Il y était enchevêtré, mêlé comme à une flamme. À chaque mouvement, les épines mordaient, le labouraient de nouvelles blessures. Le sang dégouttait des branches dans la neige. Sa sourde plainte devint un étrange cantique dans le silence des étoiles. Une porte s'entr'ouvrit, une tête vint écouter. Frère Genièvre. Effrayé. Père, père, cria-t-il, les bras au ciel. Qu'il le fallait, frère Genièvre, pour en finir avec ses tentations. Frère Genièvre vit clairement qu'il ne pouvait seul le retirer de là. Il appela au secours. À plusieurs, ils l'ont retiré avec mille précautions, non sans lui causer de nouvelles blessures. François était tout en sang, affreux. L'ayant vêtu d'une bure, ils pensèrent le porter dans sa cellule. « Non, dit-il, à l'église, pour remercier Dieu de ses épines qui purifient. » De partout, sauf de Syrie où était frère Élie, il arrivait de mauvaises nouvelles. Échec sur échec. Les frères étaient chassés de l'Allemagne après avoir été liés au pilori et mis en prison. En Hongrie, on leur avait arraché les vêtements. En France et en Espagne, on les avait traités d'hérétiques. Nulle part, évêque ni curé ne leur avait permis de prêcher. « Où sont vos papiers ?» leur avait-on dit. « Battu ici ?» lapidés là, ou insultés, humiliés. Quel bonheur, s'écria François, de pouvoir tant souffrir pour la foi. Que n'ai-je pu être avec eux ? Mais lorsqu'il vit revenir tant de frères découragés, déçus, amers et tristes, la joie le quitta. Où est votre amour ? Leur dit-il. Les premiers chrétiens s'offraient jubilants à la gueule des bêtes. Maintenant les frondeurs, toujours les savants, avait trouvé un bâton. Il se plaignait entre eux et au cardinal. Il entreprend tout cela au hasard, Pourquoi ne nous a-t-il pas pourvus de papier? Nous serions deux fois plus forts. Pourquoi ne nous permet-il pas d'étudier la théologie, les langues et les mœurs du peuple auquel il nous envoie? Il nous aurait épargné toutes ces misères. Les frères ont été mal reçus parce qu'on ne les comprenait pas. Il ne prend jamais de précautions. Dans sa simplesse et sa pauvreté, il exagère. Il ne tient pas compte des hommes. Il compte trop sur Dieu. Tout cela est plus admirable qu'imitable. Tout lui est réussi à lui. Il nous croit pareil à lui. Mais lui, il est un saint. Monseigneur se contenta de répondre. Je lui en parlerai. François avait le cœur broyé. Il le sentait si bien, on le répudiait. Il errait, tristement, d'un ermitage à un autre. Et il irait lui-même en parler à Monseigneur. Mais en chemin, il eut un songe. Il vit une mère poule qui ne pouvait garder sous ses ailes ses poussins trop nombreux. À son réveil, il dit « Je suis cette mère poule, petite et noire, incapable désormais de protéger mes petits. » Et tout inquiet, il se mit à la recherche du cardinal reparti pour Rome. Il le trouva dans un village. « Aidez-moi à protéger mes petits frères. » « Volontiers, dit le cardinal, viens avec moi, nous en parlerons au pape. »« Oui, je vous accompagne, et obtenez-moi la faveur de prêcher devant le Saint-Père pour être sûr de le gagner à notre cause. »« Très bien, dit le cardinal, un peu penaud, mais point d'improvisation, tu vas écrire ton sermon et la prendre par cœur, car on pèsera chacune de tes paroles. Un mot de trop ou trop peu suffit parfois pour attirer la disgrâce. » Il suivit l'équipage du cardinal, qui, depuis qu'au cours de ses voyages, il avait vu partout l'influence formidable de François, avait mûri un grand projet. Canaliser l'idéal de François. Le canaliser. François écrivit donc son sermon dans la maison de Dame Frère Jacqueline. Le cardinal le lut, l'approuva, le retoucha un peu. Et l'heure vint où, devant le trône du pape, le célèbre François allait prêcher. De chaque côté se tenaient les cardinaux, dont quelques-uns s'étaient déjà donné beaucoup de mal pour essayer de changer ou de détruire l'ordre. Et quand il se trouva devant le pape, il ne se rappela plus un mot de ce qu'il avait écrit et appris de mémoire. Plus un mot. De honte, il eût voulu s'enfoncer sous terre. Il vit ses rouges cardinaux grandir comme des rocs qui allaient l'écraser. Voyant l'échec, le cardinal tremblait de peur et marmonnait des oraisons jaculatoires. La honte, le scandale, le préjudice retomberaient sur lui autant que sur son protégé. François rougit et pâlit tour à tour et son cœur hurlait au secours vers Dieu. Il se signa et au même instant, l'inspiration lui vint et il prêcha. Non ce qu'il avait écrit, mais ce que l'esprit lui dictait, sur la pauvreté. Et la musique de ses phrases, la joie de son âme, l'emportait tellement qu'il se mit à danser comme David devant l'arche. Tous d'abord étaient inquiets, mais ils furent pris dans le tourbillon de son esprit et de son chant. Son âme était un incendie allumé par Dieu. Depuis le pape jusqu'au hallebardier, tout le monde était transporté, et des larmes coulaient. Les rocs devinrent des montagnes de fleurs. Avec un tel homme, je peux conquérir l'univers, pensa le cardinal. Le pape l'établit protecteur de l'ordre. En sortant, François se trouva tout à coup dans la presse à côté d'un jeune moine svelte en robe blanche. Une figure angélique, des yeux bleus et clairs, un grand front pâle comme translucide de sagesse et d'intelligence. Ils se regardèrent avec des âmes traversées de feu, un sourire céleste sur les lèvres. Ils rayonnèrent l'un vers l'autre et avec un soupir de joie, comme s'ils étaient cherchés durant des années, Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et se baisèrent tendrement. « Je suis François. Je suis Dominique. Je vous ai vu en songe. Demeurons désormais côte à côte et nul ennemi ne nous vaincra. » « Oui, cria François. Mais voici le pape avec son brillant cortège. » La foule, dans ses violents remous, les sépara. Ils se cherchèrent sans se retrouver. Le cardinal Hugolin avait vu cette accolade. Son plan grandit. L'ordre de Dominique, les frères prêcheurs, avait l'approbation écrite. Et fusionner les deux ordres, quoi de plus beau? Ce serait l'extinction du dernier hérétique, unir l'intelligence et le cœur. Il manda les deux fondateurs, mais il usa de beaucoup de précautions oratoires, car quand on touchait à son ordre, François était d'une susceptibilité. Les deux frères furent au septième ciel quand ils purent se revoir et s'embrasser. « Frère, dit le cardinal, la Sainte Église a besoin de bons évêques, forts, saints, de vrais pasteurs. Permettez-moi d'en choisir parmi vos disciples pour occuper les places élevées de l'Église. » Ces paroles n'étaient pas encore froides que déjà François éclata. « Éminence, mes frères sont les mineurs. Il ne faut pas qu'ils deviennent les majeurs. » Dominique partagea son avis. Pas de poste d'honneur, pas d'occasion donnée à l'orgueil. Des abeilles ouvrières, rien que cela. Le cardinal admira ce sentiment humble et sublime. C'était des anges, et tout ce que vous voudrez, mais des forces perdues pour l'Église et sa gloire. Les deux frères se regardèrent avec respect, et l'homme à la haute intelligence exprima à l'homme au grand cœur le grand désir caché du cardinal. Frère François, fusionnons nos deux ordres. Mais François ne voulut rien entendre. Cela ne se peut point, mon frère. Dieu veut que nous demeurions séparés, afin que chacun puisse, selon son attrait, choisir l'une ou l'autre règle. Dominique, qu'attristé ce refus, mais que réjouissait la belle conviction intime de François, lui demanda « Donne-moi la corde qui te ceint en pieux souvenir. » François la lui donna. Et quand ils sortirent, Dominique dit à ses frères qui l'attendaient « François est un saint homme. Tous les religieux devraient l'imiter, tant il est parfait. » Nouveau chapitre. Assise et les environs étaient grouillants de bure brune. La Portioncule semblait une ville de cabanes bâties à la hâte. Le cardinal arriva à cheval avec une nombreuse suite de nobles. Et en descendant, il ôta ses chaussures et ses bas, déposa son habit et parut dans la bure franciscaine. Frère Hugolin, après qu'il eut célébré la messe servie par François, celui-ci fit un sermon. Il parla de la bénédiction qu'est le pain mendier et le pain qu'on gagne avec des mains calleuses, de l'eau pleine de grâce, de la chasteté, de la patience, de l'obéissance, de l'Église. C'était si magnifique que tous tombèrent à genoux et chantèrent un beau psaume. Ensuite, ils s'assirent par groupe pour prier et pour délibérer des affaires spirituelles, et malgré la présence de ces milliers d'hommes, moines et laïcs, il régnait une paix d'Église. Et on entendait mieux le chant des oiseaux dans les arbres que la marche et les conversations des hommes. Midi approchait. Où était le repas? Ne vous inquiétez ni du boire ni du manger, mais de Dieu, avait dit François dans son sermon. Fort bien, mais d'aucuns avaient grand faim et regardaient autour d'eux. Pas de nourriture. On ne s'en était point soucié. Et beaucoup se demandaient comment il se pouvait que François osât rassembler ainsi plus de 5000 personnes sans rien prévoir. François ne bougea point, abîmé dans l'oraison devant le Saint-Sacrement. Mais vers midi, on vit arriver les vivres par tous les chemins. Les gens les apportaient sur des chariots, des ânes, des brancards, des portes décrochées. Il y en avait assez pour 10 000 hommes, et ce n'était point du pain et de l'eau, mais des poissons, des poulets, des rôtis, des fruits, du vin, du fromage, du jambon et des gâteaux aux raisins. Et on y avait joint des assiettes, des coupes, des brocs, des nappes et des couteaux. Un banquet. On voyait là des moines qui, depuis des années, n'avaient vécu dans leur ermitage de montagne que d'oignons, de fèves et de pain, manger une cuisse de poulet de bel appétit. Grands seigneurs et bourgeois éprouvaient une joie profonde à servir les pauvres frères. Mais au lieu de se réjouir de ces gâteries de la Providence, il y en avait pour murmurer. « Tout beau, peut-on bâtir une règle pour tous sur des miracles ? On risque trop à cette simplesse exagérée. Les miracles ne se produisent pas toujours. Nous devons nous organiser d'une manière plus pratique, avec une règle claire et précise. Sinon, tout finira par aller de travers. » Quelques-uns allèrent en parler au cardinal. Il ne dit ni oui ni non. Il prit François à part, et avec toutes les précautions possibles, il insinua qu'il n'y aurait pas de mal à écouter un peu aussi les frères lettrés, les érudits, et à accepter quelques points de la règle de Saint-Augustin ou de Saint-Benoît. François rougit d'indignation, mais ne dit mot. Il prit simplement la blanche main de son éminence, et alla se poster devant l'église, là où étaient la plupart des frères. Il fit signe de la main qu'il allait parler. Les autres accoururent. Plein de feu, François cria. « Mes frères, mes très chers frères, Dieu m'a appelé dans la voie de simplicité et d'humilité, et dans cette voie nous marcherons, moi et tous ceux qui veulent me suivre. Ne me parlez pas d'une autre règle, je n'en veux point, ni de celle de Saint-Benoît, ni de celle de Saint-Augustin ou de Saint-Bernard. Ne me parlez pas d'une autre voie que celle que, dans sa miséricorde, Dieu nous a révélée et montrée. Le Seigneur m'a dit que je serai dans ce monde un bouffon et que c'est par le seul chemin de cette science et de cette folie, et non par un autre, qu'il veut nous conduire. Avec votre science et votre théologie, Dieu vous maudira. Je prévois déjà votre confusion, qu'il enverra sa vengeance qui vous ramènera à votre vocation. » Le cardinal, stupéfait, gardait le silence. Tous les frères aussi. Les coupables baissaient la tête. Mais les simples, les petites alouettes le regardaient avec fierté. Alors il annonça de nouvelles missions dans les pays lointains. Des centaines se déclarèrent prêts à partir. Des lettres de protection n'étaient toujours pas question. Ils savaient que leur père y était opposé. Les apôtres en avaient-ils ? Alors il dit, et le cardinal consentit, qu'il irait vers les hommes noirs de l'Égypte. Terre, terre, cria-t-on un matin du haut des mâts d'un vaisseau de croisée. Enfin ! François traça une grande croix sur l'Orient et en débarquant, il baisa la terre comme du pain. Il ne pouvait s'enfoncer plus loin dans le pays. La guerre y faisait rage. Croisée contre Maure. On se battait devant Damiette, si fort que le sang coulait jusque dans la mer. Il ne lui restait à prêcher qu'au camp même pour les croisés. Car aux bons chrétiens s'était jointe la racaille de tout pays pour piller et voler. Orgies, disputes, rixes ne cessaient point. L'air puait le péché et peu à peu, les bons se laissaient corrompre eux aussi. Cette guerre durait trop longtemps. « Ce ne sont point les maures, dit-il, qui vous retiennent déjà depuis une année entière. C'est votre propre démon, haine et convoitise. Vous oubliez que vous portez une croix sur vos armes. Portez-la aussi dans vos cœurs. Si vous aviez la charité, les tentes des maures se plieraient d'elles-mêmes. Maintenant, les maures craignent votre haine et vos intentions mauvaises. Le glaive gagne du sang, l'amour gagne des âmes. C'est pourquoi j'ai déposé le glaive. J'ai été soldat, moi aussi. Et je prie Dieu qu'il ne vous laisse pas entrer dans la terre sainte de Jésus avant que votre âme en soit digne. Et malheur à ceux qui se battent pour autre chose que la justice et la délivrance du Saint-Tombeau. Purifiez vos âmes, purifiez vos cœurs. » Ils rentrèrent en eux-mêmes. Quelques-uns déposèrent le harnais et demandèrent la bure. Cela les envoya à Élie, à Acre, en Syrie. d'autres baisèrent leur épée comme une croix. La lutte se poursuivit et les croisés multiplièrent les assauts. Un de ces assauts, que François avait déconseillé, coûta aux chrétiens en un jour plus de 6 000 hommes. La crainte, le chagrin, le fléau rouvrirent le cœur d'un grand nombre qui s'agenouillèrent comme devant une lumière. Maintenant, sous les tentes et autour des feux de bivouac, on entendait des prières au lieu de jurons. Un armistice fut proclamé et François demanda au légat du pape l'autorisation d'aller prêcher devant le sultan pour le convertir et obtenir la paix. Le légat se moqua de lui. « Demain, votre tête trônera au bout d'une pique sur les murs de Damiette. » « Si cela pouvait être vrai, » dit François, et en compagnie de frères illuminés, il s'en fut vers les tentes des Maures. « Sultan, sultan !» ne cessait-il de crier. Les sentinelles, les prenant pour les parlementaires, les conduisirent au pavillon du sultan. Le sultan, noir de visage, était assis dans un habit de soie dorée, les jambes croisées sur un amas de coussins. Il serrait un cimetière. De nombreux colliers de perles entouraient son cou, et sur son turban frissonnaient des plumes blanches, fines comme une haleine. Il y avait là, suspendu ou étendu, une profusion de beaux tapis et des cassolettes d'or montaient une vapeur parfumée. En français, langue qu'entendait le sultan, François commença à parler de Jésus avec netteté, vivacité et amour, au point que le sultan admira ce prédicateur en guenille. Il porta la main devant sa figure et déjà ses officiers levaient leur cimetière, mais il dit « Revenez demain ». François demeura ainsi plusieurs jours dans le camp des Maures et fit tous les jours un beau sermon devant le sultan, mais de conversation pas mèche. Cela ne pouvait durer. Alors François dit « Faites allumer un feu, j'irai me placer dedans avec vos prêtres, vous verrez qui professe la vraie religion ». Le sultan fit un signe négatif. Comme un cri d'alarme, François dit alors « Je m'y placerai seul. Si je brûle, attribuez-le à mes péchés. Si j'en sors indemne, promettez-moi de vous convertir, vous et votre peuple. » Cette proposition ne fut pas agréée davantage. Mais le sultan lui dit en soupirant, et on sentait que cet homme puissant, quelque chose lui pesait sur le cœur. « Priez beaucoup pour moi, afin que Dieu me fasse connaître quelle foi lui plaît le plus. » Il lui donna un sceau qui permettait à François et à ses frères de parcourir librement la Terre Sainte et visiter les lieux saints. Il voulut y ajouter des joyaux, des perles, des parfums, mais François refusa énergiquement. « Prenez du moins ce corps, » dit le sultan, une corne de vache à revêtement d'argent, « comme un double signe que c'est moi qui vous envoie. » Ce corps, François l'accepta. Il sortit tout triste et de n'avoir pu gagner cette âme et d'avoir encore sa tête sur ses épaules. Pendant les pourparlers de paix, qui durèrent plus de 2 mois, 2 nouveaux croisés ne cessèrent de débarquer. Et c'est en novembre que toute cette puissante armée s'avança comme une mer de fer. L'air était noir de flèches, la terre rouge de sang. Damiette fut prise. Et alors, soudain, le démon se déchaîna de nouveau dans les chrétiens. La haine et la cruauté couvrirent d'écume l'étoile de leur âme. Massacres, mutilations, viols, pillages, incendies, vols, beuveries. Femmes, enfants, vieillards, on n'épargna personne. Tout l'enfer paraissait lâché. D'horreur, François se couvrit la face de ses 2 mains et en gémissant, « Pitié, pitié !» il s'enfuit loin, loin, dans la contrée, dans la Terre Sainte. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais à très bientôt !